9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On va s'occuper de votre tête et de ce qu'il y a dedans aujourd'hui avec votre cerveau. Mon invité s'appelle Cyril Maître, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Vous êtes champion du monde de mind mapping, vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est. Vous êtes formateur, conférencier, facilitateur graphique, expert en sketchnoting. Ça fait déjà beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Mais avant de préparer cette émission, vous êtes ce qu'on appelle un aptonyme.
Un aptonyme,
vous
oui.
Vous êtes un aptonyme, c'est-à-dire que vous portez un nom qui correspond à votre fonction. Si vous appelez Cyril Maître, eh bien vous avez un nom qui désigne parfaitement ce que vous êtes.
Un maître en mind mapping.
Exactement.
Et en pensée visuelle.
Alors, le mind mapping, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le mind mapping, c'est une technique de pensée visuelle parmi d'autres. Je vais peut-être commencer par définir ce qu'est la pensée visuelle.
On a tout le temps pour ça, hein. On a toute une émission pour le faire. Juste la traduction, c'est mind mapping, ça veut dire ?
Carte mentale.
Voilà.
Carte mentale.
Et sketchnoting ?
Un sketchnoting, ce sont des prises de notes dessinées qui vont intégrer des dessins, littéralement.
C'est incroyable. Moi, j'ai vu ça à une conférence récemment. Vous arrivez à prendre des notes sur ce qui se dit, c'est... Et là, pour le coup, les gens ont vraiment l'esprit de synthèse. Hein.
C'est le but, c'est vraiment le but des outils de pensée visuelle, c'est d'arriver à capter l'essence de l'information et de pouvoir la retranscrire de façon claire. Et c'est ce que j'enseigne dans les formations, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut abandonner la croyance que sur une prise de notes, par exemple, c'est l'exhaustivité qui est la qualité majeure de cette prise de notes. Et au contraire, ça va être plutôt la capacité du praticien en mind mapping ou en sketchnoting. Ça va être sa capacité à récupérer la structure dans l'information à l'aide de la technique appropriée. Et c'est ça qui va lui permettre d'améliorer à la fois sa compréhension, mais aussi sa capacité d'utiliser cette information a posteriori.
Parce que moi, quand je prends des notes, ce qui m'intéresse, c'est d'abord savoir que si j'ai bien compris ce que je note et surtout comment je vais le retenir. Comment je vais le restituer plus tard. Alors, et le mémoriser, en fait.
Alors ça, c'est une remarque très, très intéressante. À partir de la prise de notes, effectivement, comment je vais faire pour le mémoriser? Ce que je constate d'habitude chez des étudiants ou chez des professionnels, des gens qui prennent des notes qu'on appelle au kilomètre, en réunion ou en formation, la plupart ne relisent pas leurs notes parce que c'est trop touffu, c'est trop long. Ou alors, ils vont reprendre ces notes-là et faire des notes condensées, voire un schéma en troisième étape.
Et souvent, pour eux, l'idée, c'est de vraiment bien tout noter, tout ce qui est dit.
Oui, parce que derrière ça, il y a la peur de « si j'oublie une idée importante ». Et ça vient vraiment de l'école. Hein, parce qu'à l'école, on n'a pas été éduqué sur la capacité de nous poser les bonnes questions, mais juste d'apporter les réponses qui sont attendues. Et pour ça, il ne faut rien louper en cours. Il faut absolument avoir toutes les informations pour être sûr de pouvoir les « recracher » entre guillemets le moment venu. Et c'est quelque chose qui perdure après. En pensée visuelle, on fait exactement l'inverse. Avant de prendre le crayon et d'écrire, on va prendre une posture d'écoute active, c'est-à-dire qu'on va prendre du recul par rapport à l'information, on va commencer à écouter.
Alors, écoute active, c'est quoi la différence entre l'écoute active et l'écoute passive ?
Alors, l'écoute passive, l'information rentre dans mon oreille et tout de suite j'écris. J'écris sous la dictée de mon interlocuteur. Et c'est physiologique. De toute façon, on a une vitesse d'écriture qui est plus faible que la vitesse de la parole. Donc, on aura toujours l'impression d'avoir un temps de retard.
Sauf si on a appris la dactylo.
Sauf si on a des techniques particulières, ouais. Comme la dactylo ou un... des abréviations ou un outil comme un dictaphone. Là, on va tout prendre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va comprendre. Ce n'est pas pour ça qu'on va pouvoir utiliser derrière. Je reviens sur cette notion de mémoriser les notes. On a toujours cette peur d'oublier, de ne pas pouvoir mémoriser les notes. Alors, c'est une opinion personnelle. Moi, je pense que la mémorisation des notes, c'est secondaire. Et ça va dépendre de notre objectif. Quand on sait prendre des notes correctes, et je pense que ce sont des notes visuelles les plus efficientes, on note ça sur un papier. Et on peut le réactiver quand on veut. Et ça va dépendre de notre objectif. Si, par exemple, j'assiste à une conférence qui m'intéresse.
Ou un cours, parce que là, on est à quelques mois du bac.
Je vais commencer par la conférence et je vais parler du cours. Parce que justement, c'est deux environnements différents avec deux objectifs différents. Ma conférence, je vais juste vouloir capter les mots-clés. Ça me permet en plus, par la technique et l'écoute active, d'être plus focus pendant la conférence, d'être plus concentré. Je vais capter ça et faire ma planche de sketchnoting ou mon mind map. Excusez-moi.
À Beurre FM, on a tous la grippe algérienne, donc je vois que vous avez été contaminé. Et alors en plus, je vous rassure tout de suite, il y en a pour un moment avant de s'en débarrasser. Donc, vous faites votre mind mapping, votre sketch noting.
Voilà, en direct. Et cette carte-là, mon objectif, c'est juste de garder une trace et de pouvoir la réactiver dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, dans six mois ou dans un an. Et comme le fait de capter les mots-clés, le fait de les illustrer avec des pictogrammes personnels, on va fortement solliciter la mémoire épisodique. Ça va être facile de retrouver tous les éléments qui entourent le contexte de la création de ce schéma. Si j'ai un cours, par exemple, mon objectif va être différent. Si j'ai un cours à prendre, je vais également faire une carte ou un sketch note, mais je vais l'intégrer dans un process de révision sur le long terme, avec de la révision espacée, par exemple. Donc, la carte, la technique de pensée visuelle ne fait pas tout, mais sur la captation, c'est ce qu'il y a de plus efficient. Et ensuite, en fonction de mon objectif, soit je la stocke pour la réactiver comme je veux, soit je la fais entrer dans un process de révision.
On a longtemps dit que la pensée visuelle, c'était le mode de fonctionnement des esprits des personnes qui étaient autistes, par exemple.
Bonne question. C'est une possibilité, mais pas que, c'est sûr. Je crois que on a un mode de... Enfin, 80% de la population, c'est le chiffre que j'avais gardé en tête, mais je serais incapable de citer la source exacte, un traitement préférentiel par le visuel. Alors, je prends beaucoup de pincettes là-dessus parce que certains pensent que parce qu'on est visuel, on ne va mémoriser et on ne va travailler qu'en visuel. Parce qu'on est auditif, on ne va mémoriser et travailler qu'en auditif. En fait, ce sont des préférences sur les canaux perceptifs. C'est-à-dire, quand je perçois l'information, c'est plus efficace pour moi de passer par la vue. Pour certains, ça va être l'ouïe. Mais sur la mémoire et la réactivation, la visualisation peut intégrer à la fois le visuel et l'auditif, et c'est vraiment super puissant dans les deux cas.
Donc, en gros, Cyril Maître, combien est-ce qu'on a de styles de pensée?
Alors, de préférence de captation d'information, je vais retraduire comme ça.
Ouais.
On estime qu'il y a trois grands types. Il y a les auditifs, les visuels et les kinesthésiques. Donc, on va passer soit plutôt par le son, par le sens des mots, soit par le visuel, donc la vue d'une image ou la vue d'un mot ou d'un schéma, soit passer par le ressenti, par le corps, par le mouvement.
Bon, comment est-ce qu'on sait à quelle famille on appartient?
En s'observant, en voyant comment on retient mieux, comment on est le plus efficace. Et c'est une excellente remarque parce que malheureusement, à l'école, on ne passe que par les canaux auditifs et visuels.
Donc, c'est-à-dire que ce sont des sons qu'on traduit en mots.
C'est ça.
En gros, on nous apprend aujourd'hui, quand à l'école, à retenir comme ça, et en tout cas, à avoir une pensée qui se manifeste comme ça, et qui fonctionne comme ça.
Ou plutôt des mots qu'on va transformer en son, ou des mots qu'on va transformer en image. Enfin, on va soit regarder les lettres, soit entendre le son, soit avoir une image associée aux mots. Et le souci, c'est qu'à l'école, à partir de l'âge de 6 ans, on nous assoit à une table, on nous apprend à lire et à écrire, et si on ne remet pas ça en cause, et si on n'est pas un peu curieux, on va faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Et si on est kinesthésique, il y a des gens qui sont fortement kinesthésiques. C'est les élèves qui n'arrivent pas à rester sur leur chaise, qui bougent tout le temps. Il suffirait qu'ils puissent se lever, qu'ils puissent bouger, et ils vont mieux mémoriser de cette façon-là. J'ai eu l'occasion de former sur la Bretagne des centaines d'enseignants, à la fois sur le mind mapping et dans une moindre mesure sur la mémoire. J'ai des témoignages super intéressants. Par exemple, il y a une enseignante qui utilise ce qu'on appelle la méthode des lieux. C'est une méthode très connue dans l'art de la mémoire, mais de façon kinesthésique. Et pour...
Cette méthode qui est très connue, je vous rassure tout de suite, personne ne la connaît là ce matin.
Alors, je vais la décrire en deux minutes. C'est le fait de spatialiser l'information. On va déposer l'information dans l'espace. Ça peut être sur une feuille. Donc, on va faire un schéma. Et en haut à droite, je sais que je vais avoir telle information. En bas à gauche, je vais avoir telle autre information. Et je ne vais pas retenir l'information que pour l'information, mais je vais pouvoir la retenir parce que quand je ferme les yeux et que je vois ma carte ou mon sketch note, par exemple, je sais qu'elle était posée là. Cette enseignante, ce qu'elle a fait, par exemple, pour apprendre les quatre strophes d'une poésie, elle a sorti sa classe dans la cour et à chaque coin, elle avait un déclencheur de la première strophe, de la première phrase, ce qui permettait aux enfants d'avoir un ancrage et de retrouver le reste. Physiquement, elle bougeait à l'autre coin de la cour, avec un autre environnement, et cet environnement-là déclenchait la suite, etc. Et elle m'a dit, j'ai eu des résultats fantastiques, notamment sur des élèves qui pensaient qu'ils n'avaient pas de mémoire ou une très mauvaise mémoire. Donc voilà un exemple d'utilisation du kinesthésique dans un contexte scolaire.
D'ailleurs, pour les enfants, c'est très compliqué de rester assis toute la journée. Déjà, si on faisait sur une émission d'une heure, comme celle qu'on est en train de faire ce matin... Combien de temps les gens sont-ils attentifs, d'ailleurs? Est-ce qu'on sait ça?
On parle en général d'une vingtaine de minutes où on peut soutenir une attention de façon assez soutenue.
C'est-à-dire qu'au-delà de ces 20 minutes, vous décrochez.
L'attention va être un peu moins soutenue. Ça donnait des techniques de productivité ou d'efficacité personnelle, comme le pomodoro, par exemple.
Le
pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et l'origine de cette technique, c'est un Italien qui travaillait par séquence de travail d'un quart d'heure, un quart d'heure 20 minutes. Et il avait un minuteur de cuisine en forme de tomate. Et toutes les 15 minutes, il faisait 5 minutes de pause pour garder au maximum cette attention.
C'est-à-dire que si on veut être optimal au niveau d'efficacité, il faudrait faire 15 minutes, faire une pause, re 15 minutes et refaire une pause, c'est ça?
C'est une méthode. Il y a une autre méthode aussi qui travaille sur des runs de travail, entre guillemets, d'une heure et demie. Ça va dépendre de la tâche. Toutes les tâches ne demandent pas autant d'attention et autant de concentration. Si vous avez une tâche de mémorisation de cours, par exemple, une tâche qui prend beaucoup de ressources cognitives, il va falloir raccourcir ce temps-là. Si on a une tâche plus productive, comme écrire un texte, on va pouvoir rallonger ce temps de concentration.
Bien. Ce qui intéresse les élèves, hein, à quelques jours du bac, c'est là ils sont en révision maxi. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus ils vont réviser. Est-ce qu'il y a un moyen efficace, finalement, de réviser?
Je peux vous donner un témoignage en direct.
Allez-y.
Mon fils a passé son bac l'année dernière. Et je vais vous parler de la carte mentale pour réviser le bac dans certaines matières. Lui, il a appliqué ça à l'histoire géo. Donc, c'est un bon élève à la base. Il aime bien l'histoire. Et comme son prof principal leur avait dit, si, pour ceux qui veulent faire une école d'ingénieur, si vous bossez très très fort pour avoir votre bac et avoir une mention, vous allez décrocher l'année prochaine. Il va y avoir un gap trop important. Donc lui, il a cherché des méthodes vraiment efficientes. Comment ne pas avoir trop de... Comment ne pas passer, mettre trop d'efforts pour avoir un maximum de résultats. Et il m'a demandé de lui remontrer comment on faisait des cartes. Donc j'ai fait sa première carte avec lui. Je lui ai décrit exactement comment ça se passait dans ma
tête.
Donc
une carte, ça, c'est quoi? C'est un résumé de cours ou,
oui, voilà. Il avait son cours et j'ai fait une carte mentale de son cours. Ensuite, je lui ai dit, tu fais la même chose pour tous tes cours. Il a fait une dizaine de cartes mentales. À côté de ça, il a passé beaucoup de temps à regarder des reportages sur le programme, programme d'histoire. Je lui ai montré comment intégrer ces cartes sur une révision à long terme. Il faut juste visualiser la carte, la refaire rapidement. Enfin, c'est des techniques toutes simples. Résultat, il a eu 19 en histoire géo. Même s'il est bon, la note est tellement exceptionnelle que je pense que la méthode y est quand même pour quelque chose.
Et en plus, en histoire géo, on sait ou on ne sait pas.
C'est assez binaire, oui. C'est assez binaire.
On n'invente pas quoi, une histoire. Cyril Maître, champion du monde en mind mapping, est notre invité. Tous les trucs d'un champion avec vous jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle de la pensée visuelle et de ses applications ce matin avec Cyril Maître, qui est champion du monde de mind mapping, formateur, conférencier, facilitateur graphique, expert en sketchnoting. On rappelle pour ceux qui arrivent ce qu'on appelle la pensée visuelle.
Alors la pensée visuelle, c'est un ensemble de techniques qui vont associer à la fois des mots, sous forme souvent de mots-clés, voire de phrases courtes, avec des dessins, des images très simples que l'on va dessiner à la main, ce qu'on appelle des pictogrammes. Donc on va associer ces deux éléments, les mots et les pictogrammes, en spatialisant l'information, tout ça pour gérer de l'information. Et quand je dis gérer l'information, j'ai tout dit, mais je n'ai rien dit, c'est très, c'est très
gérer, large. C'est qu'on gère un portefeuille.
Exactement. Donc gérer l'information, ça veut tout simplement dire que dès qu'on va manipuler de l'information, on va pouvoir se servir de ces outils. Que ce soit pour apprendre, pour prendre des notes, pour communiquer, pour convaincre, pour vendre, etc.
D'accord, c'est une représentation des choses par des images, en fait.
Par des schémas.
Par des schémas, plutôt
des schémas.
Que des images.
Voilà. Les images, c'est ce qu'on appelle un pictogramme.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi, j'ai une mémoire visuelle. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on dit quand quelqu'un vous dit « Moi, j'ai plutôt une mémoire visuelle. »
Ça veut dire que la personne va pouvoir se remémorer ses souvenirs ou les informations qu'elle doit se rappeler de façon visuelle. Elle va avoir une image qui va lui apparaître dans son esprit. Quelqu'un de plutôt auditif, il va plutôt avoir, par exemple, si on est dans un contexte scolaire, il va plutôt avoir la phrase de l'enseignant qui va revenir, ou un contexte particulier plutôt lié au son.
Alors disons-le tout de suite ce matin, hein, au même titre qu'on va à la salle de sport pour faire de la gym et entretenir son corps, eh bien c'est la même chose pour le cerveau. Le cerveau lui aussi a besoin de faire de la gym. Et plus on connaît son cerveau, plus on arrive à lui faire faire ce qu'il veut d'ailleurs.
Plus on arrive à lui faire faire ce que l'on veut qu'il fasse, oui,
ouais.
Tout à fait.
Et c'est ça qui est important, c'est intéressant. Sinon, finalement, au même... Alors c'est pas un muscle le cerveau pourtant, mais on peut le muscler.
C'est pas un muscle, mais on peut l'entraîner et le rendre d'une part plus efficace, voire plus efficient. Je peux peut-être repréciser ces deux termes, parce que j'utilise ça depuis tout à l'heure. L'efficacité, c'est tout simplement la mesure de l'atteinte d'un objectif qui a été visé. Donc je pars d'une situation A, je vais arriver à une situation B, et si j'y arrive, j'ai été efficace. Dans l'efficience, on va rajouter un troisième paramètre, c'est que pour arriver à cette situation B, je vais mesurer les ressources que j'ai utilisées. Et pour être efficient, je vais essayer d'utiliser le moins de ressources possible. C'est la fameuse maxime de Jigoro Kano, le père fondateur du judo. Maximum d'efficacité, minimum d'effort. Et je précise, ça ne veut pas dire pas d'effort du tout. Parfois, il faudra faire sur un temps assez court des efforts importants, mais qui vont se capitaliser dans le temps et on n'aura pas besoin de les refaire très souvent.
Bon, donc... Et parce qu'on a, encore une fois, il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui ont envie de secouer leurs enfants, et parce que c'est vrai que les examens sont un stress. Quel serait un bon conseil à donner finalement à quelqu'un qui devrait réviser toutes les matières pour le bac?
Alors pour réviser, je conseille vraiment de passer plutôt par des schémas plutôt que de faire des fiches de révision classiques. Ce que j'ai constaté chez les élèves, c'est qu'une fiche de révision type, c'est le cours du prof, écrit en tout petit sur une fiche Bristol. Et malheureusement...
Peut-être même avec un peu de stabilo, si je peux rajouter.
Et un peu plus de stabilo, des fois qu'on noie un peu plus le poisson.
Ouais. Il y a tellement de stabilo que finalement, on ne sait pas ce qui est souligné.
Tout est important, voilà, sur ce genre de prise de notes. Donc ça, c'est exactement, je pense, ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, le cours du prof, déjà, c'est quelque chose de pré-mâché, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver dans le livre, le professeur, il va reprendre les points clés, les expliquer. À partir de ça, c'est simple de détecter les points clés, de par exemple les mettre dans des boîtes et mettre des flèches entre ces boîtes pour montrer les liens de causalité, par exemple. Si on est un peu plus aguerri avec les techniques de pensée visuelle, on peut utiliser la carte mentale, ce qu'on appelle aussi le mind map, pour avoir des fiches de révision qui sont encore plus pertinentes et plus efficaces en termes d'appropriation de l'information. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de super important. Si c'est des parents qui veulent passer le message à leurs enfants, et c'est la même chose pour les enseignants, il y a un écueil très important à éviter. C'est juste de dire, ah, j'ai entendu à la radio le champion du monde de mind mapping, il a dit que c'était bien pour étudier, vraiment, fais-le. Ça marche pas comme ça. Le meilleur moyen, c'est de montrer l'exemple. Si vous voulez que votre enfant ou que vos élèves se mettent au mind mapping, se mettent à utiliser le mind mapping, en formation, on dit toujours, le formateur est le premier formé. Il faut d'abord passer vous-même par une phase de formation, d'intégration de l'outil et de maîtrise de l'outil, et par l'exemple, ça va infuser dans la famille ou dans la classe. Je peux raconter une anecdote personnelle avec mes enfants. On est rarement prophète en son pays. Et mes enfants, mon fils notamment, dont je parlais tout à l'heure, très longtemps m'a dit « Oui, de toute façon, les cartes mentales, la mémoire, ça sert à rien, je ne vais pas en entendre parler. » Pas de souci. Je l'ai juste, quand il était petit, il avait 10 ans et sa sœur 10 ans, tous les deux, je leur ai fait mémoriser les 100 décimales de pi. C'est très simple, c'est très marrant à faire. Et
Ah oui, c'est, oui, et là, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte, lui?
Oui. Bon. Je continue?
Oui, les 100 là-dessus. Décimales de pi, vous allez voir, c'est très simple et très marrant.
Oui, c'est très simple et très marrant. Juste pour leur montrer que les techniques existaient. Ensuite, ils ont grandi, ils ont mis ça de côté, tous les deux travaillent bien à l'école et... utiliser ça, ça leur demandait un sur-effort. Ils étaient naturellement adaptés à l'école. Et le problème, c'est que ça marche bien jusqu'en troisième. Mais en troisième, même pour le brevet des collèges, il y a tellement d'informations que les méthodes classiques, j'écoute, je relis et je fais le contrôle, ça marche plus. Et un jour, je rentre et je vois mon fils sur l'ordinateur en train de faire des cartes numériques pour réviser son programme de troisième. Et je regarde, je suis surpris, je lui dis « Ah, tu fais des cartes mentales, Éloane ?» Il s'appelle Éloane. Et là, il se met devant l'écran et me dit « Oui, c'est bon. » Je dis « Ok, je laisse. » Et je lui passe quand même le message. À la main, c'est encore plus efficace. Et puis si tu veux que, pas que je les corrige, mais si tu veux qu'on les améliore tu me les envoies. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a envoyé toutes ses cartes. Au début, je corrigeais pas mal de choses sur l'aspect visuel pour que ça soit plus impactant. Mmh. Et ensuite, il les faisait de mieux en mieux. Donc, pourquoi je raconte ça? Parce qu'il m'a vu tout le temps faire des cartes, en fait. Moi, j'utilise ça au quotidien, que ce soit pour faire des analyses de besoins pour mes clients, que ce soit pour mes propres besoins en formation ou en conférence, pour que ce soit aussi mes propres besoins quand je construis une action de formation. Donc, j'utilise ça au quotidien et il l'a vu. Et quand il en a eu besoin, il savait que ça existait, il savait que ça marchait.
Et donc il l'a utilisé parce qu'il avait confiance en la méthode.
Exactement. Être l'exemple.
Est-ce qu'il y a besoin, finalement, de bien savoir dessiner pour faire des cartes? Parce que c'est une question qui revient souvent.
Alors ça, c'est une excellente question. C'est un peu dommage qu'on soit à la radio, parce que je vous aurais montré mes premiers pictogrammes.
Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent se disent, mais à quoi ça peut ressembler la transcription d'un cours, un cours d'histoire et géo, sur une carte mentale?
Est-ce que vous avez moyen de mettre dans le podcast des
ouais,
images?
Ouais, on pourra mettre, on mettra sur le site.
Ok,
ouais.
Je vous montrerai à la fois des sketch notes, de conférences que j'ai pu capter, c'est comme un cours, ou des cartes mentales en situation scolaire.
Pourquoi est-ce que c'est plus efficace alors?
Pourquoi c'est plus efficace?
Pourquoi est-ce qu'une carte mentale serait plus efficace que des belles notes prises avec une belle écriture, avec des belles abréviations, avec le bon stabilo au bon endroit?
Parce que la beauté de la carte ou la beauté de la prise de notes, c'est secondaire. L'important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelle est ma capacité ou quelle est la capacité de mon enfant ou des élèves à aller chercher les informations clés, à les structurer de façon logique. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir se fabriquer une vraie carte mentale au sens propre, en fait, dans leur esprit, des informations. Et une fois qu'ils ont ça dans la tête, c'est très facile à manipuler comme information. On sait que telle information amène à ça ou est amenée par ça. Et on peut manipuler tous ces concepts de façon beaucoup plus facile. Vous m'avez posé la question sur le dessin.
Est-ce qu'on a besoin d'être Léonard de Vinci?
Alors, il y a deux choses. Non, on peut même n'utiliser que des mots-clés et des connecteurs et des conteneurs pour représenter de l'information. Sur des cartes mentales, on peut aussi n'utiliser que des mots-clés. L'avantage du dessin, du pictogramme, c'est que ça va vraiment personnaliser la prise de notes et ça va la rendre plus impactante. Et visuellement pour la relecture et au niveau de la mémorisation. Maintenant, le dessin pour la pensée visuelle, ça n'a rien à voir avec de l'art. Quand on prend des notes, surtout en direct, comme j'ai pu faire au championnat du monde, par exemple, de mind mapping en conférence, on n'a pas le temps, on n'a même pas une minute pour faire un pictogramme. Il faut que ça se fasse en moins de 5 secondes. Et donc, c'est une technique très particulière de dessin, mais de dessin pour la pensée visuelle. Et ça s'apprend, il y a une méthode, c'est pas compliqué. Et en une demi-heure, une heure, n'importe qui, alors devenir dessinateur, mais n'importe qui peut représenter à peu près n'importe quelle idée en pictogramme.
Mais en quoi est-ce que c'est plus efficace que les notes? C'est ça que je veux savoir.
Alors, le dessin?
Ouais, le dessin.
Alors, pourquoi c'est plus efficace?
Ouais.
Parce qu'on a deux modes de traitement, un mode verbal, un mode visuel. Et le fait d'associer les deux, on renforce l'impact de l'information sur le cerveau.
Alors maintenant, comment est-ce qu'on apprend les suites de pi?
Alors, les décimales de pi.
Qu'est-ce que vous utilisez comme technique?
Alors, qu'est-ce que j'utilise pour apprendre les décimales de pi? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs méthodes historiquement pour apprendre ça. Il y a des vieilles méthodes qui sont connues. C'était d'apprendre des suites de phrases où chaque mot, le nombre de lettres de chaque mot correspondait à la décimale. C'était des phrases qui n'avaient ni queue ni tête, ça demandait beaucoup d'efforts, et grosso modo, ça servait à retenir les décimales de pi, et c'est tout.
Donc, vous en retenez jusqu'à 100, c'est ça?
Ça,
donc
oui.
C'est 3,14, et puis voilà.
15, 92, 65, 35, etc.
D'accord. Okay. Donc, comment est-ce qu'on les retient?
Voilà. Donc, il y a cette méthode-là, mais je le précise parce qu'on la trouve encore dans les livres. Et ça sert pas à grand-chose. Moi, ce que je voulais, c'est que les méthodes puissent être duplicables pour autre chose. J'ai utilisé deux grandes techniques. Les chiffres, c'est ce qu'il y a de plus dur à mémoriser parce que c'est abstrait. On ne peut pas représenter quelque chose vous voulez mémoriser la notion de chien. Eh ben, une image de chien, on va le mettre en mouvement, on va le créer un scénario, ça va être facile. Si je vous donne les 10 premières décimales, comment je vais faire pour les retenir? Et puis, on a encore 90 à apprendre. Donc là, il y a des systèmes de conversion. On va convertir les chiffres en quelque chose de concret. Il y a trois grandes tables qui existent. excusez-moi encore, trois grandes tables qui existent. Une table où on va convertir les chiffres en un dessin, une forme qui s'approche. Le 1, quelque chose de vertical, comme un stylo. Le 2, un signe ou un serpent. Des choses comme ça. Et on va visualiser ces objets à chaque fois. Ça peut être aussi un système qui va être basé plutôt sur l'auditif. C'est ce qu'on appelle le code chiffre-rime. Et là, je vais prendre un mot qui rime avec le chiffre. 1, train. 2, cheveux. 3, roi. 4, théâtre, etc.
4, théâtre. 5.
5, zinc. 6, saucisse.
Alors, si, il faisait à retenir. Saucisse. Voilà. 7.
7, chaussette.
Ouais. 8.
8, truite. 9, bœuf. 10, obélix. C'est ce que j'utilise.
D'accord, bien. Alors, une fois qu'on a tout...
Donc, et il y en a un dernier qui s'appelle le code chiffre-lettre que je ne vais pas décrire parce qu'il est un peu plus compliqué. Une fois qu'on convertit, qu'on a sa table de conversion, on ne va plus mémoriser les chiffres, mais ce que représentent les chiffres, les objets, les objets concrets. Et on va faire des histoires avec ça. Mais si je fais une longue histoire...
Ah, si vous en avez 100 à retenir, vous vous rendez compte de la table de l'histoire. Ouais.
Donc, je vais découper ça en 10 paquets et je vais utiliser la méthode des lieux que j'expliquais juste après. Juste avant, excusez-moi, je vais réexpliquer ici. Je vais me balader dans ma maison et je vais prendre 10 pièces, toujours dans le même ordre. Et par exemple, comme j'avais fait ça pour ma fille, on commence dans la chambre de ma fille. Et elle va dérouler une histoire avec les 10 premières décimales de pi, avec les conversions des 10 premières décimales de pi dans sa chambre. Ensuite, elle change de lieu et il y a une nouvelle histoire qui commence. Et comme ça, mentalement, elle va se balader et retrouver les informations. Alors, pourquoi, à quoi ça sert de retenir les
l'histoire et en quoi est-ce que c'est plus facile de retenir l'histoire que de retenir les chiffres?
Parce que l'histoire, c'est très concret. Je vais te faire mémoriser le début, d'accord? Je ne vais pas donner le système de conversion, ça serait trop long et trop compliqué. Si je te demande de retenir l'image d'un taureau, ok? Tu vois un taureau?
Je vois le taureau, ouais. Faites-le avec moi, parce que comme ça, je ne serai pas seul à voir le taureau.
Une télé.
Oui.
C'est bon? Un panneau.
Un panneau.
Un châle.
Un châle.
Un châle.
Un châle.
Un châle.
Un châle, ouais.
Et une malle.
Une malle.
Ouais. OK. Le fait d'avoir ces quatre mots, de faire une histoire avec, eh ben dans mon système de conversion, je le traduis en 14, 15, 92, 65, 35.
Bon, j'espère que vous avez compris.
C'est un peu obscur parce que je peux pas vous montrer
Mais bon, en tout cas, on est en pleine conversion. Cyril Maître est notre invité jusqu'à 10h sur Beurre FM.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, vous êtes avec moi, on se souvient qu'il y a un taureau dans l'histoire que Cyril Maître nous racontait tout à l'heure. Champion du monde de mind mapping, formateur, conférencier, facilitateur graphique, expert en sketchnoting. On est en train d'essayer d'avoir un truc pour retenir les décimales de pi. Donc vous parliez... Il y a un châle, un panneau, une télé, le taureau.
Alors, c'est dans l'ordre. La télé, visualiser le taureau.
Non, c'est le taureau.
Excusez-moi, le taureau.
Le taureau.
Alors, 30 secondes, on va faire notre film ensemble.
Ouais, vas-y.
Tout le monde voit le taureau, vous avez l'image d'un taureau. Maintenant, vous dézoomez votre film et en fait, vous vous rendez compte que ce taureau, il est sur une image, sur un écran de télé. D'accord ? Maintenant, le taureau, il va foncer de l'intérieur... Il va foncer sur l'écran de la télé, casser l'écran et venir en vrai dans la pièce. Et là, vous vous retrouvez devant vous avec un vrai taureau. Derrière vous, dans un grand fracas, il y a un énorme panneau qui tombe. C'est un panneau de circulation interdit aux taureaux. Vous imaginez une ombre noire de taureaux, cerclé rouge, paré rouge.
Ah, je ne l'ai pas vu. Ouais.
Ok. Ensuite, puisque vous avez le taureau, vous allez prendre un châle rouge. Un châle rouge. Et comme un toréador, vous allez emmener... Le taureau au fond de la pièce, et au fond de la pièce, il y a une grande malle. Vous jetez le châle dans la malle, le taureau rentre dans la malle, vous fermez la malle, fin de l'histoire.
Alors là bon, c'est bon pour l'histoire.
Voilà.
Et maintenant, comment j'ai mes décimales?
Alors, c'est le troisième système de conversion.
Gat.
Je peux le préciser, mais ça va être un peu compliqué.
D'accord. Mais donc, déjà, c'est comme ça qu'on retient.
C'est
donc,
ça.
On passe par une histoire. Et après, on ouvre la malle et les chiffres ressortent comme par magie. Si je veux retenir une date, par exemple, une date importante de l'histoire, comment je fonctionne? Est-ce qu'il y a des trucs?
Alors, bon, je vais être obligé de rentrer dans le troisième système.
Ah non, mince. Ah non, vas-y, je vais faire un truc simple.
Pour les chiffres, on passe, c'est toujours pareil, on passe par le système de conversion.
D'accord, il faut toujours convertir.
C'est ça.
Et on peut retenir jusqu'à combien ?
S'il y a pas de, c'est une question de travail après et d'investissement.
C'est-à-dire que plus on s'entraîne et plus on retient.
C'est ça. Le système est simple. Après, il faut réviser, réactiver ces histoires de temps en temps pour pouvoir les retrouver quand on en a besoin.
En gros, aujourd'hui, si on veut être parmi les bons dans le monde, il faut retenir combien de choses ?
Si on veut participer au championnat de mémorisation, par exemple, il faut suivre un entraînement très particulier parce que ce sont des épreuves particulières avec des techniques qui sont adaptées pour les épreuves. Par exemple, si vous voulez mémoriser des jeux de cartes, il va falloir développer un système que pour les jeux de cartes, mais qui ne servira pas à autre chose. Pour les nombres binaires, c'est pareil. Pour la suite de chiffres aléatoires, vous allez pouvoir utiliser ce genre de méthode que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour autre chose, soit pour des dates d'histoire. Je pense aux étudiants en droit. Mémoriser le code civil, c'est d'une simplicité enfantine, oui, quand on maîtrise ce genre de technique. J'ai coaché des élèves en droit qui passaient des heures et des heures à travailler, à bachoter et qui, le lendemain matin, avaient tout oublié. Avec ce genre de technique, une fois qu'on les maîtrise, c'est comme l'étape de multiplication. Ça demande un petit peu d'investissement au départ. Une fois qu'on les maîtrise, quand on va travailler une demi-heure, une heure à mémoriser des articles, il y a juste des petites réactivations à faire, 2-3 minutes par jour dans les jours qui suivent, et c'est dans la tête sur le long terme.
Oui, c'est pas magique. Il y a du travail. C'est pas parce qu'on apprend une technique qu'on a la technique, si on ne l'utilise pas, ça ne fonctionne pas, donc il faut bosser derrière. Mais d'un autre côté, il faut aussi passer du temps pour apprendre la technique.
Souvenez-vous, j'appelle ça, c'est de l'efficience cognitive. Minimum d'effort, maximum d'efficacité, mais il y a une dose d'effort quand même, initiale. Mais ensuite, c'est dans la tête.
Ce n'est pas parce que vous avez la méthode que, ben oui, ce n'est pas de la magie.
Exactement.
Ça, c'est important, toujours, il faut les appliquer. Est-ce que ça fonctionne pour les langues ? Parce que beaucoup de gens aimeraient apprendre rapidement des langues. Est-ce que finalement les techniques que vous nous donnez aujourd'hui s'appliquent ?
Alors la pensée visuelle,
à l'acquisition des langues.
La pensée visuelle, ça va pouvoir servir à clarifier, par exemple, des notions de grammaire. Je me souviens de cours, par exemple, en anglais sur le futur, où c'était une formatrice passait des slides sur tous les cas d'utilisation du futur. On arrive à la 15e slide, on a oublié la première. L'avantage de la pensée visuelle, c'est que sur un même support, je vais pouvoir avoir une vision globale de mon sujet et mieux comprendre quand est-ce que je vais pouvoir utiliser tel ou tel temps. Ça, c'est une première chose. Après, de façon plus macro sur l'apprentissage des langues, je pense qu'il faut respecter le fonctionnement naturel de l'apprentissage d'une langue. Je peux aussi vous raconter une histoire personnelle. Mes enfants, c'était le choix de mon fils, il voulait aller dans une école, ce qu'on appelle les écoles Diwan en Bretagne. Ce sont des écoles bretonnantes, français langue étrangère. On n'était pas très chaud, on lui a demandé s'il préférait pas faire une classe en anglais. Non, il voulait faire du breton. Et en fait, dans ces écoles-là, ils ne prennent personne après le CP et ils posent les bases de la langue en maternelle de façon naturelle comme à la maison, tout à l'oral. Et en CP, ils apprennent à lire et à écrire en breton et commencent le français en CE1. Et toutes les matières sont en breton en immersion. Effectivement, ils sont bilingues très très vite en breton. Et en plus, à cet âge-là, ça crée des ouvertures pour apprendre facilement d'autres langues. Et ça, c'est une conviction personnelle. Je pense qu'il vaut mieux passer sur un mode vraiment naturel. Et une fois que le cerveau, que l'oreille a détecté les structures de la langue, ça va être facile d'implémenter du vocabulaire en apprenant toujours dans le contexte d'une phrase et puis mettre ça ensuite dans des systèmes de révision espacée.
Donc, quoi qu'il arrive, le cerveau, il existe des méthodes aujourd'hui pour que le cerveau devienne beaucoup plus performant et qui ne sont pas des méthodes difficiles.
Alors moi, je pense que le cerveau est toujours performant, sauf qu'il a été livré sans la notice. C'est comme si vous achetez une voiture, on ne vous dit pas comment ça marche, c'est une boîte automatique, c'est une boîte manuelle bloquée en première, et vous êtes en première tout le temps. Et quand il faut aller un peu plus vite, un peu plus fort, vous montez dans les tours et ça chauffe. Il suffit juste de passer les vitesses, il faut juste avoir le manuel pour le faire. Et ces techniques dont on parle, d'efficience cognitive, que ça soit la lecture rapide, la mémoire ou les techniques de pensée visuelle, ça permet d'adapter la vitesse à l'effort qu'on a besoin de produire avec son cerveau et d'être plus efficace au quotidien sans s'épuiser.
C'est facile.
C'est beaucoup plus facile. Encore une fois, c'est pas qu'il n'y a pas d'effort, c'est pas miraculeux.
C'est beaucoup plus facile en tout cas, voilà.
Mais c'est pas du tout les efforts qu'on pense. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé sur les apprentissages. Ce qui marche le mieux, c'est de masquer les apprentissages et de passer par le jeu. Masquer les apprentissages. Faire une carte mentale, c'est fun, c'est marrant, on fait des petits dessins, on n'a pas l'impression d'apprendre. Mais c'est très fortement impactant pour la mémoire. Et on va mémoriser à la fois par la mémoire épisodique, le fait de s'approprier dans son vécu les mots, de faire des pictogrammes, c'est pas anodin de faire ça. Et en plus, on va utiliser la mémoire spatiale. On va utiliser de façon naturelle différents types de mémoire, sans faire l'effort qu'on imagine qu'il faut faire pour mémoriser, froncer les sourcils, se concentrer. Ça, ça marche pas.
Et il y a des règles hein, pour ces cartes. Elles se font pas n'importe comment. Il y a vraiment des règles à respecter.
Alors, il y a des règles de construction à respecter scrupuleusement si on veut faire la compétition.
Oui.
Mais on peut les adapter et être plus souple. L'important, c'est de, un, détecter les mots-clés, si possible, illustrer et spatialiser l'information.
Vous, par exemple, pour être champion du monde de mind mapping, vous vous entraînez combien d'heures par jour et à partir de quel moment?
Alors, pour les championnats du monde, en fait, je me suis un peu entraîné comme un athlète. Je faisais un peu entre 8h30 et 9h d'entraînement tous les jours. Je me levais à 5h. Je lisais un livre par jour que je cartographiais et puis je regardais 3 vidéos que je cartographiais et j'ai fait ça pendant un an et demi.
Ça faisait au moins 4 cartes par jour.
Voilà. Non, non. J'arrête tout de suite. C'est une blague. Hein. Ça s'est pas du tout passé comme ça.
Ah bon? Alors moi, tu sais, je suis très naïf. J'allais dire c'est tout. Non, c'est pas vrai.
Non, pas vraiment. Moi, je cherche l'efficience. Et quand c'est trop dur, je cherche toujours une voie plus facile, plus efficace, plus efficiente. Alors comment je me suis entraîné? Déjà, je me suis très peu entraîné. Pour la bonne et simple raison que je vis le mind mapping, la carte mentale, le mind mapping et le sketch noting, je vis ça au quotidien. Je forme les gens à ce domaine-là. Je pense avoir atteint un niveau tout à fait correct.
Expert, hein,
expert, voilà. Et je l'utilise avec autant d'aisance qu'une personne lambda qui va prendre des notes que je vais appeler classiques. Okay, moi, c'est mon mode de fonctionnement et je fais ça tous les jours. Là où je me suis un peu plus entraîné, c'est quand j'ai participé au championnat de France cet été. Parce que, on peut préciser comment ça se passe déjà un championnat du monde. Il y a une grille d'évaluation, en fait. Et l'intérêt, c'est de connaître cette grille, de la maîtriser, pour quand on fait la carte, l'avoir en tête et se dire, je passe par toutes les lignes et je fais le jackpot dans toutes les lignes pour avoir un maximum de points. C'est bête, mais il y en a peu qui avaient cette
stratégie. C'est une stratégie.
C'est une stratégie,
ouais,
voilà.
Finalement,
Donc, j'ai adapté ma pratique initiale en respectant les règles à la lettre pour la compétition. Mais une fois que j'ai ça pour les championnats du monde, je me suis entraîné parce qu'on a une carte qui s'appelle une carte freestyle, donc une carte libre. Donc, j'ai préparé ma carte. Mais le reste, en fait, la captation directe, je fais ça tous les jours. C'est mon métier. Je fais de la facilitation graphique.
Donc, sur une carte, par exemple, vous pouvez faire un résumé de livre de combien de pages?
Ça dépend de mon objectif. Ça dépend de la profondeur d'informations que je veux capter dans le livre. Est-ce que je veux juste capter un livre pratique? S'il y a 10 grandes idées clés, c'est énorme déjà en général. On a plutôt 3 ou 4. Okay, donc ça va donner, par exemple, sur une carte, ça va donner mes branches de premier niveau. Ensuite, je vais donner des détails sur des ramifications. Donc, une carte, ça peut être un livre. Maintenant, si c'est un livre vraiment important, je peux ramifier chaque chapitre et aller sur un niveau de détail plus important. C'est tout est question d'objectif au départ.
Donc, chacun son objectif. Effectivement, un objectif d'examen, c'est pas même objectif que de la compétition ou une conférence en entreprise ou voilà.
Ou juste garder une trace d'un livre qui nous a plu.
Aujourd'hui, est-ce que ça a un sens de faire du mind map alors qu'on pourrait les faire sur ordinateur?
Ah, ça, c'est une excellente question. Oui, ça fait
beaucoup de sens. D'apprendre à le faire parce qu'aujourd'hui, vous avez des logiciels, vous voyez, qui font beaucoup de choses.
Alors, un logiciel, ça va beaucoup plus vite à maîtriser en. En 2 heures, ça, on peut très bien se débrouiller. Le problème du logiciel, c'est que c'est lui qui va spatialiser l'information. Et il y a un exercice cognitif qu'on ne fait pas, c'est vraiment la gestion de la place sur la feuille et faire ses pictogrammes soi-même et écrire soi-même. Et ça mobilise beaucoup plus le cerveau que juste de taper sur son clavier. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le logiciel. La carte papier, c'est très bien. Moi, j'utilise beaucoup pour la prise de notes, pour les aspects mémorisation. La carte numérique, très bien, pour la gestion de projet ou la créativité ou les cartes qu'on a besoin de modifier dans le temps.
Bien. Alors, Cyril Maître, champion du monde de mind mapping, et vous êtes également formateur, conférencier, vont vous transférer et vous apprenez votre savoir. Alors, voilà, c'est merveilleux. On fait de la radio, vous me le montrez. Vous avez un site où on peut voir déjà la forme de ce que vous faites. Par exemple, moi, vous m'avez fait un résumé récemment. Je l'ai montré en entreprise. Tout le monde m'a dit, il est bien ton, je sais pas comment on appelle ça, non, je l'ai montré à...
Le visuel, le résumé,
ouais. Ouais, le visuel. Non, on m'a dit ton slide.
Ton slide.
On m'a dit, il est bien ton slide. Alors là, j'étais fier de moi parce que moi qui suis incapable de faire un slide, effectivement, il était très bien mon slide. Donc, vous verrez le style de Cyril, ce qu'on peut apprendre à faire, hein, et en quoi ça peut changer la vie, au boulot, à l'école. Donc, quelle est l'adresse de votre site, Cyril?
Alors, c'est apprendrevitetbien.com, où vous pouvez aussi taper Cyril Maître.
Voilà. Et donc, Internet. Effectivement, vous vous déplacez dans toute la France, vous faites des formations.
J'ai aussi une chaîne YouTube où je mets en ligne des vidéos dessinées sur le même principe.
Pour les gamins, c'est à partir de quel âge?
Ah, ça, c'est une bonne question. Pour les enfants, à partir du moment où ils savent écrire, ils peuvent se lancer doucement dans...
Et ça les perturbe pas à l'école?
Ils vont pas forcément faire ça à l'école, mais à la maison.
Parce qu'à l'école, parfois, les enseignants voient d'un mauvais œil quand l'enfant commence à sortir sa boîte avec les feutres et...
C'est plutôt quelque chose à faire à la maison avec les parents.
Ouais.
Mais pour répondre à cette question, comment les enfants, avant le CP, ils racontent leurs vacances?
Un joli dessin.
Ils spatialisent l'information, ils mettent les informations importantes sous forme de dessin de ce qui s'est passé. Naturellement, on fait des cartes.
Bien. Merci, Cyril Maître, d'avoir été avec nous. Soignez votre grippe, hein. Vous voyez, j'ai toute une liste de... Maintenant, de médicaments, de remèdes qu'on m'a confiés. Voilà. Et oui, que le docteur de labo m'a confié. Donc, on se les passe sous le coude. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Cyril.
Merci, Philippe.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.